tantôt dans une direction, tantôt dans une autre, et à chaque fois, il manque un bout de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est ça la recherche. Recherche, c'est pas la science infuse ou pure. Donc, ça tombe effectivement bien de démarrer sur un sujet comme ça qui a été très médiatisé, bien exposé sur la place publique, telle la querelle entre Adorno et Popper. Et le titre du livre, Fabien, que tu as repris, c'est un bon titre pour provoquer l'attention. Hein, ça dit quelque chose quand même, on sait tout de suite. Alors, il y a une querelle, ça concerne les sciences sociales et ça se joue en Allemagne. Bon, donc c'est clair. L'ensemble des débats, en élargissant un petit peu, a été aussi repris par Payot, les éditions Payot, qui s'intéressent depuis longtemps à la théorie critique aussi, qui ont publié Adorno d'ailleurs, sous le titre Le conflit des sociologies. Alors là, c'est moins allemand, c'est plus global déjà. Et d'ailleurs, ça étend un peu le point de vue, le champ. Hein, donc j'ai essayé de l'inscrire dans ce contexte actuel des discussions. Pas pour noyer le poisson, hein, je vais dire des choses précises sur cette affaire-là, les textes, etc. Mais pas seulement. Mais pour une autre raison, pour une raison de compréhension, c'est que, comme tu l'as dit toi-même, je pense, tout à l'heure, c'est un dialogue de sourds. Popper, Adorno, il n'y a pas de conclusion, même pas une conclusion sur un désaccord qui serait acté, genre le grand débat de Macron, au moins on sait pourquoi on est en désaccord. Mais c'est un dialogue de sourds qui finit sur le refus explicite de Popper de continuer la discussion. C'est dit comme ça, hein, et l'argument, c'est à peu près celui que tu as évoqué, c'est pas le même passage, mais il dit en gros, c'est du charabia, votre truc, de philosophe. Adorno va d'ailleurs répondre sur ce point précis, que c'est déjà le problème de considérer ça comme un charabia. Alors, le cher Habermas, qui maintenant est sous les feux de la rampe comme supporteur du président de la République Emmanuel Macron, à l'époque, suit à peu près l'argumentation, l'angle d'attaque d'Adorno, avant de virer de bord et d'attaquer Adorno avec les termes des adversaires de l'époque, ce qui est assez marrant. Donc, à l'époque, quand il attaque Popper, il fait en quelque sorte la mise en musique, un peu plus grand public, et il dit, alors pour caractériser ce dialogue de sourds, il dit Popper et les autres, parce qu'il a un nombre de disciples impressionnant, il n'a pas rayonné au-delà dans les travaux d'autres courants, d'autres chercheurs n'ont pas vraiment repris les arguments. Par contre, son propre courant, en tant qu'école, est vraiment très fort. Et des fois, il y a des disciples qui se retournent contre lui aussi, et qui ont bien appris la leçon. Hein. C'était quand même une bonne formation de tel Thomas Kuhn aux États-Unis, qui va écrire les révolutions scientifiques avec des enseignements de Popper, mais contre Popper. Hein. Alors, Habermas, il met en musique la critique d'Adorno, que je vais encore préciser, en disant tout ce courant-là, des positivistes, pour aller vite, il se réfugie dans une posture qui dit c'est incompréhensible ce que les adversaires, les critiques nous adressent, c'est incompréhensible, donc on ne peut pas y répondre. Et il y a une petite comptine, une sorte de légende qui est très connue en Allemagne, comme les contes pour enfants. C'est marrant, la dernière fois que je suis intervenu dans ton séminaire, j'ai commencé avec une affaire comme ça aussi de conte des frères Grimm. Là, c'est pas les frères Grimm, mais c'est une histoire où quelqu'un arrive dans un pays inconnu. En fait, ça va être les Pays-Bas, mais il ne sait pas où il est. Et il demande comment s'appelle ce lieu ici. Et les Néerlandais lui répondent en flamand, plus ou moins, Carnipferstan. J'y comprends rien. Je ne sais pas ce que tu racontes. Karnit Verstan. Il dit, ah, c'est Karnit Verstan ici. Il continue son voyage. À chaque fois, il est au même endroit, au même lieu, à la même ville qui s'appelle Karnit Verstan. Mais ça veut dire, j'y comprends rien. Donc, Habermas dit, Popper, il est dans la posture du Karnit Verstan. Je ne sais même pas ce que tu racontes. Donc, il n'y a pas de débat. Et c'est donc assez logique qu'il n'y ait pas de suite, qu'ils mettent un terme volontairement, de manière affirmative, un débat, ce qui, selon lui, n'a pas lieu d'être. C'est même pas de la science. Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas me limiter au terme de ce débat qui est un dialogue de sourds, surtout si on le voit depuis aujourd'hui, où quand même cette approche, la Popper, a perdu beaucoup de sa superbe. Non seulement grâce à la théorie critique internationale, mais aussi grâce à des livres comme Thomas Kuhn qu'on discute ici, qui ne sont pas forcément des éloges à Adorno, qui sont peut-être plus structuralistes. Alors en fait, du coup, il serait possible d'inscrire la critique du positivisme non seulement dans un débat de colloque, mais de le voir comme expérience sociologique qui, dès le départ, déborde les termes de ce type de débat très formel. D'ailleurs, c'est une idée d'Adorno que de dire les concepts, hein, les définitions positives, y compris savantes ou scientifiques, n'épuisent jamais la richesse des expériences humaines, alors empiriques en sociologie ou même historiques. Qu'à tout moment on essaye de dire, de nommer par la prise de parole, bien évidemment, on ne va pas faire une pratique aveugle. Donc on a besoin d'idées critiques, d'orientation, de perspectives, sinon de théories critiques, peut-être on peut même l'utiliser au pluriel, et d'idées philosophiques pour éclairer le monde. Mais il ne suffit pas de dire ça, c'est telle chose pour qu'on ait déjà épouser, neutraliser la totalité des sens, des significations qui peuvent se jouer dans une expérience telle que ici, là, j'essaie de transmettre quelque chose. J'ai plein de choses en tête que vous n'entendez pas de la même façon parce que j'arrive pas à les réduire à un seul mot, n'est-ce pas? Bon. Et le dialogue de sourds entre Popper et Adorno, à sa manière, prouve bien que Popper n'arrive pas à saisir l'expérience que Adorno présente, expose ou nomme, puisqu'il l'écarte de son vocabulaire, donc comme si ça n'existait pas. Hein. Un problème ancien de la philosophie, c'était déjà l'idée du philosophe allemand Hegel, qui pensait qu'en finissant par tout nommer à partir du mouvement historique, on allait arrêter en quelque sorte les conflits ou les foisonnements historiques, c'est la fin de l'histoire. Non, hein, manifestement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, encore moins. Donc, j'étais à Berlin récemment et j'ai montré ce problème, cette question à partir des Gilets jaunes. On a essayé de les nommer, quelques ministres ou journalistes, ont essayé de nommer ça, c'est le fascisme. Bah, manifestement, ce n'est pas tout à fait ça. Bon, il y a peut-être des fascistes aussi, il y a de tout, mais on ne peut pas dire que c'est l'équivalence, voilà, c'est résolu, c'est ça la définition positive et on arrête la chose, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une expérience partagée, mais comment la nommer? On la nomme par une couleur, par un signal, par un avertissement, il y a quelque chose qui se manifeste là, justement, regardez, c'est jaune, fluo, c'est avertissement. Bon. Donc, c'est ça le fond du débat. Alors, du coup, je remonte un petit peu, finir en beauté sur les termes exacts de Popper ou de la critique d'Adorno à l'encontre de Popper, qui d'ailleurs s'étale de 61, c'est le début, jusqu'en 69, c'est la mort d'Adorno, c'est l'année aussi où Adorno publie un article qui est une sorte de résumé, de synthèse de cette affaire qui s'appelle d'ailleurs La querelle du positivisme. Bon, je vais citer ça un peu en point d'orgue. Mais donc pour commencer, Voilà une vue un peu plus globale qui pourrait se rythmer en trois moments. Premièrement, la critique, mais au sens philosophique et savant du terme, hein, pas juste un rejet ou d'une querelle. La critique du positivisme initial, donc d'Auguste Comte, Durkheim et autres, positivisme français, qui n'est pas une critique pour dire que c'est, j'ai pas quoi, obscurantiste ou réac comme le fait Popper, hein, contre ses adversaires, et qui est une critique pour prendre les acquis pour les pousser plus loin, pour les mettre en perspective. Donc ça, c'est 19e siècle. Après, il y a une rencontre avec Lazarsfeld. Paul Lazarsfeld, le sociologue établi aux États-Unis, qui a déjà développé des grandes recherches et enquêtes empiriques dans les années 1940, donc en exil aux États-Unis. Et pour finir, bien évidemment, il y a ce truc de 61-69 avec Popper, sachant que tu t'étonnais de la modération des termes du débat un peu, Fabien. C'est la période où Adorno est le président de la Société allemande de sociologie. Donc, c'est le président des sociologues. En tant que tel, il est un peu grand prince. Enfin, il ne va pas taper avec la grande massue sur ses adversaires. Il a une position aussi fédératrice. Et c'est peut-être tant mieux, puisque de toute façon, cette querelle ne débouche sur rien. Alors, pourquoi s'énerver pour rien? Alors, cet angle un peu plus historique est choisi par Popper lui-même d'ailleurs, pas seulement par Adorno, dans le débat, puisqu'il accuse toute l'inspiration dialectique, en fait, tous les penseurs dialectiques, lui qui ne l'est pas du tout, hein, qui est justement dans positivisme logique, où on appelle ça aussi la logique formelle pour rester plus modéré. Il accuse donc tous les penseurs dialectiques d'être des totalitaires et des obscurantistes, en plus des autres noms qui ont été évoqués. Totalitaires parce qu'ils cherchent à montrer une globalité dans leur réflexion, y compris historique. Et donc lui, il les dénigre en tant que totalitaires, hein, avec tout un arrière-fond des thèses sur le totalitarisme. Sachant que Hannah Arendt, qui a écrit là-dessus, n'applique pas du tout sa théorie politique aux penseurs dont on parle, c'est-à-dire Hegel, Marx et Adorno, à aucun moment. Elle ne les applique même pas à l'Union soviétique, sauf pendant une période stalinienne précise. Donc, c'est complètement déplacé. Et bien évidemment, il les traite d'obscurantistes. Une manière de clore le débat également. Bon, bref. Sachant que pendant tout ce temps-là, il a un tour de passe-passe assez génial qui est de dire on m'accuse qu'on ne puisse pas vérifier empiriquement ma propre théorie des sciences. Par exemple, des historiens qui lui disent mais à tel moment ça marche pas du tout comme tu racontes, les révolutions scientifiques, etc. Et il dit, oui, mais la mienne, c'est une théorie de la science, donc par définition, elle échappe à la vérification empirique. C'est quand même un tour de passe-passe incroyable d'échapper à l'expérience, justement. Hein. Donc finalement, c'est très hégélien de dire ça comme ça, c'est le concept qui domine le monde. Et donc les agissements, les excitations empiriques, ça concerne pas la théorie. Bon, on reviendra dessus. Juste pour dire pourquoi je commence un peu en amont. Alors, commencer en amont, il y a quand même une source commune, c'est l'idée, disons, des Lumières ou du droit naturel pendant la Révolution française et qui a été théorisée par Emmanuel Kant, à ne pas confondre avec Auguste Comte, le positiviste. Bon. Et Marx avait dit à un moment donné, Kant est le théoricien politique de la Révolution française. Hein, donc, C'est comme ça que, dans ce cadre-là, que ça peut se discuter. Je dis ça parce que Popper se réfère à Kant en expliquant comment il faut le revoir, etc. De même que Adorno, qui a donné un cours sur Kant, c'est publié maintenant en version poche, etc. Là, j'ai le cours sur la sociologie, qui est aussi un très bon résumé de tous ces débats, pas encore publié en français. Conflit des sociologies, c'est à peu près les mêmes thématiques. Alors pourquoi il y a une source commune chez Kant et par ailleurs tous les courants positivistes sont opposés aux penseurs fascistes ou nazis, n'est-ce pas? Ce qui est déjà un point commun avec la théorie critique. C'est bien pour ça qu'elle est en exil au moment des dictatures fascistes en Europe. Parce que, à la base, dans la critique de Kant, donc dans l'ouvrage, il y a le constat qu'il est impossible de prouver ontologiquement une existence de Dieu, donc d'une définition supérieure au monde tel qu'il est, tel qu'on le vit. L'existence, et qui en allemand, le terme allemand est le Dasein, l'être là, hein. Et c'est un mot tout simple à la base, hein. C'est pas un gros machin philosophique, c'est quand on arrive à la maison, on demande peut-être allô, est-ce que t'es là? Et la réponse est je suis là, ich bin da, être là, c'est exactement ça en allemand, hein. C'est ça le Dasein. Bon. Et alors, s'il est impossible de prouver par une forme de devenir de l'être ou de je sais pas quelle puissance supérieure le monde, le Dasein, comme a essayé de le faire Heidegger et les théologiens de tous bords et les gens qui prétendent que c'est par la parole, au début fut le verbe, comme dans la Bible, qu'on puisse définir le monde. Un peu comme notre ami Yves Citton le fait en littéraire, hein. On peut tout nommer par nous-mêmes et comme ça construit le monde, hein. C'est ça l'idée. Bon, donc un accord entre les positivistes, d'ailleurs aussi les premiers positivistes français et les traditions critiques philosophiques allemandes depuis Kant, que bien évidemment Kant a bien eu raison de constater ça, hein. On n'est pas dans l'ontologie du développement du monde, qu'on doit pouvoir le définir de manière scientifique, et c'est-à-dire chez Kant par la loi naturelle, les sciences naturelles. Et il pense effectivement que les sciences naturelles expriment en quelque sorte la nature telle qu'elle est déjà, telle qu'elle précède notre expérience, c'est pourquoi nous avons des critères de jugement innés qui permettent de recevoir l'expérience. À partir de là, il essaye de développer les sciences sociales et les sciences humaines sur cette base, qui à l'époque, la base des lois naturelles, c'est Newton, hein, la pomme qui tombe, c'est la loi de la gravité, etc., et qui bien évidemment ne marche pas comme on le sait aujourd'hui. Comme l'a montré Einstein, un mètre n'est pas un mètre, une heure n'est pas une heure, parce que tout est en relation, et si on avance très vite, le temps recule ou le temps s'arrête. Bon. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir. De même que Kant essaye, dans son anthropologie, de développer quelques pistes de sciences sociales, par exemple, comment se développe le genre humain, mais sur une base génétique, etc., enfin génétique et historique. Et il n'en sait rien. Hein. Si on lit ça, c'est vraiment un essai pour dire, alors en Europe, par la couleur des cheveux, dans les familles, comment ça pourrait marcher? Il n'a aucune idée ni de Darwin, ni que les races humaines, ça n'existe pas. Donc il ne peut pas être raciste non plus, parce qu'il dit juste les autres continents, je ne sais pas, et tout. Enfin, c'est complètement exploratoire, hein, et incertain. Donc il essaye de fonder des sciences, mais il n'a pas les bases scientifiques pour le faire. D'où aussi un manque de transmission, parce qu'il n'y a pas les bases. Après, il n'y a pas la postérité, il n'a pas de disciples qui poursuivent ça directement. Et donc, si c'est repris un siècle plus tard, il y a forcément une multitude d'approches, d'interprétations, etc. Alors, chez Adorno, c'est très clair, le problème de Kant, c'est très clair, c'est qu'il a essayé de mettre en équation la loi, c'est-à-dire la science, la loi naturelle et les sciences naturelles, avec l'expérience sociale, et que, en fait, il n'y a pas la base scientifique, épistémologique pour le faire. Et d'ailleurs, même la base scientifique qu'il convoque, les lois naturelles de son époque, ben, ne suffisent pas, hein. Après, vous avez des gens qui ont essayé de reprendre les théories de la relativité de Einstein pour revoir Kant, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Alors, je m'arrête là-dessus sur les fondements, hein, pour dire, on parle quand même, à la base, on parle quand même du même problème, de la même question. C'est pas comme les obscurantistes, les vrais nazis, qui veulent tuer tout le monde. Là, on n'a pas de base de débat, hein. Alors, du coup, en France, cette tradition par le matérialisme philosophique engendre le positivisme sociologique, hein, à travers Auguste Comte, ça je développe pas, de manière plus déployée comme sociologie chez Émile Durkheim, que Adorno a fait traduire et qu'il a préfacé pour le faire connaître en Allemagne, hein, pour dire qu'on n'est pas dans un débat destructeur, mais. Il fait d'abord connaître les positions françaises, comme à l'époque de Marx, Marx faisait connaître les positions des socialistes français, avant de dire mais où sont les limites, on n'est pas d'accord, etc. Et donc, sa principale discussion du positivisme français, sur une base sociologique, et de dire que ça essaye d'évacuer la métaphysique. Donc, on était dans la loi physique avec Newton. Ce qui est au-dessus de la loi physique, c'est donc une métaphysique. C'est comme ça chez Kant, ça ne veut pas dire autre chose. Et donc, les interprétations philosophiques, sinon morales, il y a aussi une éthique qui découle de ça chez Kant, une éthique politique, sinon le droit, la constitution républicaine, etc. Et donc, Adorno dit chez Durkheim, c'est évacué, cette métaphysique est évacuée au nom des faits, études des faits sociaux, etc. Mais elle est chassée par la porte, elle revient par la fenêtre, dans les termes même dont est définie la sociologie, ou disons, la théorie et la méthode qui engendrent cette sociologie. Il y a des conceptions morales qui interviennent, sinon le droit, par exemple en pensant au cadre républicain, qui est quand même pas n'importe quel cadre, hein, donné par avance. Et donc il a des formules de type la subjectivité se venge dans les termes même de la sociologie qui rejette la métaphysique ou des choses comme ça. Hein. Et il en est complètement d'accord parce qu'il en discute avec d'éminents sociologues et penseurs parisiens, également dans les années 60. C'est pour ça que c'est pas très éloigné de la querelle. Ça se tient en soubassement, que sont Georges Friedman, quand même l'un des fondateurs de la sociologie du travail au CNRS en France, et Lucien Goldman. Les deux l'invitent tour à tour à la même époque pour discuter justement la sociologie d'Adorno, enfin la sociologie qui est à la fois une sociologie, une philosophie, tout ce que tu viens de dire, Fabien, c'est-à-dire on s'en fout un peu des intitulés, mais comme on est dans des approches historiques qui viennent du 19e siècle, autant les nommer. On verra dans un instant encore ce que ça peut être. Une sociologie d'un autre genre, une sociologie critique à la Adorno, quoi. Adorno et bien d'autres. Et donc, par exemple, Georges Friedman dit que la sociologie de Durkheim, la théorie de Durkheim, n'a pas de fondement empirique, qui n'a apporté aucune preuve empirique en se situant loin des faits, trop loin des faits. Je cite, hein, ça c'est dans le travail en miettes, par exemple. Ça, c'est Friedman qui le dit. Donc, c'est pas de mauvaise foi quand Adorno fait ce type de constat ou de critique. Et Lucien Goldman, dans. On s'appelle Philosophie et Sociologie, n'est-ce pas? Qui est une forme de reprise d'un titre de Durkheim, d'ailleurs, dit à peu près la même chose. D'ailleurs, Adorno et lui en discutent à un moment donné, à la même époque. Bon. Donc, en ce qui me concerne, juste pour illustrer, j'avais un peu interrogé le suicide, c'est-à-dire l'observation du suicide par Durkheim. Et l'idée de Durkheim était que. Bon, le suicide, d'ailleurs, qui est aussi une catégorie morale, puisque l'Église catholique, par exemple, l'interdit, sinon on brûle en enfer. Hein, donc il y a une morale liée au suicide. Bon. Mais alors, chez Durkheim, le suicide s'explique sociologiquement par l'avancement dans l'âge, par la désintégration familiale. Ça augmente les chances de se suicider. Et par l'éloignement du travail qui lui intègre et inscrit les gens dans le collectif. Alors à l'époque, il n'avait pas les moyens de réaliser des enquêtes quantitatives ou qualitatives suffisantes. Donc c'est pas représentatif, c'est en regardant un peu, en réfléchissant en fait, hein, qu'il établit cette thèse. Il n'y a pas la base sociologique moderne, d'ailleurs il n'y avait même pas les méthodes. À la Lazarsfeld, je parle encore dans une minute, pour le faire. Donc, il prend avec les moyens du bord, les éléments d'observation dont il peut disposer, des livres, des choses comme ça, des rapports, et puis il l'extrapole en quelque sorte. Mais si on regarde aujourd'hui, alors à l'époque on ne pouvait pas le faire, mais aujourd'hui il y a des rapports énormes de l'INSERM, l'équivalent du CNRS pour la santé. Que j'avais épluché, et le résultat empirique est exactement le contraire de ce que supposait Durkheim. C'est-à-dire, ceux qui se suicident le plus, c'est les gens au fait de leur développement biographique, donc aussi les plus avancés dans la carrière professionnelle, les mieux intégrés, donc Fabien et moi. C'est-à-dire, là, on est prof, on peut un peu faire ce qu'on veut, choisir les intitulés des controverses critiques, etc. On gagne de l'argent, on peut vivre, on est intégré plus ou moins socialement, familialement, etc. Et c'est notre génération qui se suicide le plus en France. Pas les petits jeunes ou les vieux qui se disent « je vais bientôt mourir, donc autant se suicider ». Ce qui est une fausse logique, hein. Et en fait, c'est un phénomène générationnel et pas seulement, comment dire, spontané. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont connu la fin de la période d'expansion économique et sociale à une échelle mondiale, les fameuses Trente Glorieuses. Moi, je m'en souviens très bien à l'école, et qui sont dans le contre-coup. Hein, alors, tout le monde n'est pas prof de fac non plus, et qui vivent très mal de cette perte. Hein, et qui dit perte, ça peut aller avec dépression et suicide, etc. En tout cas, c'est quelques pistes comme ça, parce qu'on ne peut pas non plus l'expliquer sur la base purement statistique et quantitative. Mais les chercheurs eux-mêmes de l'INSERM avancent cette piste. Je suis pas loin d'être d'accord, ça peut se creuser. Donc, il n'y a pas la base empirique chez Durkheim pour avancer tout ça. Donc finalement, il y a aussi un choix moral, qui est républicain et pas religieux. Et une construction, pourquoi l'adhésion, par exemple, à l'État devrait permettre une plus grande solidarité collective. Actuellement, la solidarité collective se construit par la contestation de l'État sur les ronds-points, n'est-ce pas? Bon. Des tas de choses. Il y a aussi en sociologie du travail, je pourrais dire. Des milliards de choses, mais ce n'est pas l'objet là. Hein. D'ailleurs, vous trouvez sur Dailymotion un petit truc où j'essaye de dérouler le fil là-dessus. Alors, du coup, Adorno qui pétrit de ces débats, à l'approche d'ailleurs de 68, hein, quand on pense après à la grève générale, à la contestation de l'État, c'est intéressant, il formule dans des termes théoriques concis. Quelles seraient les limites de cette méthode et de cette approche? qui en fait n'a pas les moyens de partir des observations individuelles ou collectives concrètes pour construire la perspective ou les résultats sociologiques, et donc du coup est obligé de faire une sorte de projection théorique. Et c'est aussi ça ce qui rend si difficile de séparer ce qui est normal et pathologique, ce qui est normal et malade. Le suicide, par exemple, est-ce que c'est une pathologie? Aux yeux de Durkheim, oui, hein? Mais en vrai, si on utilise aujourd'hui la psychanalyse ou d'autres ressources de la santé, on peut bien voir qu'il n'y a pas forcément une norme qui est la santé, mais plutôt des manières de faire, de survivre avec les normes qu'on essaye de nous imposer. D'ailleurs, nous, on en chie des normes qu'on essaye de nous imposer ici à l'université. On essaye de ne pas être trop longtemps en arrêt maladie, des fois, hein, donc, sans entrer dans les détails. Bon, alors, ça c'était pour Durkheim. Je finis juste que les impulsions de la théorie critique allemande à Francfort, c'est la révolution des conseils, le renversement de l'empire, de l'État, en 18, hein, après la révolution russe. Et c'est au même moment que Freud écrit sa psychologie de masse. Après une grosse dépression, pendant la guerre, il n'arrive plus rien à écrire, il a un projet d'écriture comme ça, il n'y arrive plus. Et quand la révolution arrive, il a comme une illumination, par l'expérience donc, hein, et il dit, bon, ça m'a sauvé, j'ai jeté tous ces vieux papiers qui sont dans des impasses, dans des apories, et j'ai commencé à écrire quelque chose de neuf à partir de ce trauma. Violence de la guerre, et ça donne la psychologie de masse et comment les gens développent leur personnalité malgré cette violence subie. Chose qui est reprise sans cesse par la théorie critique, y compris par Adorno, hein, par la suite, c'est pour ça que je l'évoque. Alors, deuxième étape, enfin, c'est une sorte d'interlude avant de finir avec la querelle là, des années 60 avec Popper. C'est comment Adorno pratique la sociologie, parce que il y avait d'autres, dont l'Institut de Francfort, qui lançait déjà des grandes enquêtes empiriques, socio-psychologiques de toutes sortes, de type Krakauer, Fromm et d'autres encore. Et lui-même, il n'y participait pas directement, bien sûr, il discutait avec les amis, mais il n'était pas engagé. Et quand il est viré de l'Allemagne, hein, obligé de partir. D'abord, il essaye de trouver une forme de survie en Allemagne, mais à la fin, il doit vraiment partir vers 38-39, là, après des stations d'exil dans toute l'Europe. Ben, le point de chute naturel que son ami Horkheimer lui conseille, c'est de s'inscrire dans un projet d'enquête empirique en sociologie, qui est déjà installée par un autre germanophone qui s'appelle Paul Lazarsfeld, dont je parlais, et qui fait la fameuse radio research. Nous, on est un peu en communication, tout le monde connaît les enquêtes sur la radio comme nouveau média de masse, qu'est-ce que ça fait, les usages, etc. Donc, je me suis amusé en lisant dans les archives Adorno Benjamin à Berlin. Il y a tous les échanges, alors qu'on a aussi dans la correspondance qui est déjà publiée, mais y compris avec les annexes qui sont des projets d'enquête ou de rapport, etc. Comme nous, on peut s'envoyer des trucs comme ça, et où ça se cristallise, les désaccords vont se cristalliser. Et dès le départ, Adorno écrit, en prenant le bateau vapeur pour New York, il lui écrit, bon, ça va être une fantastique collaboration. Voilà ce que je peux apporter modestement, plutôt avec mes réflexions historiques de philosophe social, etc. Hein, il essaie de se la jouer modeste quand même. Il dit, mais de mon point de vue, hein, humblement, je pense qu'il ne faudrait pas poser des questions de recherche dont on peut connaître les résultats par avance, tellement c'est téléphoné, tellement c'est évident. Il dit en allemand, des questions dont la réponse peut se décompter sur les 5 doigts d'une main. 1, 2, 3, 4, Et Lazarsfeld lui répond vertement, non mais mon pauvre, t'as rien compris à la méthodologie scientifique qu'on déploie ici, c'est comme ça, tu vas bien t'intégrer dedans. Et oui, d'accord. Bon, alors, il y a les études sur la radio d'Adorno qui sont publiées, je reviens pas dessus, mais ça devient encore plus intéressant à partir du moment où Adorno a assimilé les méthodes académiques de la sociologie de Lazarsfeld. Et qu'il en aperçoit les limites justement de type positiviste. Parce que quelles sont les bases théoriques de tout ça? Ça paraît assez pratique. On va faire des entretiens bien faits, les mettre ensemble de façon cohérente, vérifier, faire des questionnaires, tout ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui à la fac, quoi. Ils sont effectivement très bien faits et très bien avancés par Lazarsfeld. Mais en fait, c'est un physicien, Lazarsfeld. Hein? Donc, on revient à la physique de Newton, autre, et la métaphysique, quoi. Hein? C'est-à-dire, comme c'est un physicien, il se dit la métaphysique, on s'en fout un peu. Donc, j'aborde pas ça. Enfin, on appelle ça la métaphysique. En réalité, il faudrait parler d'une théorie critique. Hein? C'est pas les mêmes termes qu'au 19e siècle. Et en fait, j'ai regardé, Lazarsfeld a fait sa thèse de physique sur la planète Mercure, dont il calcule les mouvements ou revoit les mouvements avec la théorie de Einstein. C'est pas banal, hein? Mais bon, comme épistémologie de théorie sociale, c'est peut-être un peu léger, quoi, hein? Donc en fait, il défriche toutes ces méthodes d'enquête aux États-Unis. Qu'il fait pour les grandes institutions et puis plus tard pour les grandes administrations aussi. Et donc, leur rencontre et coopération se jouent en 1940, peu de temps après, dès que Adorno aura montré que ça aussi, il sait le faire et il montre les résultats, c'est quand même pas un con, se déclenche l'entrée en guerre des États-Unis. Et donc, Lazarsfeld va montrer, même exposer et justifier pourquoi ces approches, qu'il appelle la recherche administrative, administrative research, hein, pour les institutions, doit se mettre au service du ministère de la guerre. Et Adorno dit non, ça c'est en fait, on va faire de la propagande, quoi, en quelque sorte. Nous, on est pour maintenir la distance critique. Et puis peu de temps après, enfin quelques années après, il va quand même se faire virer des États-Unis pour activité anti-américaine, ce qui n'est pas le cas de Lazarsfeld à ce moment-là. Enfin, bref. Donc à ce moment-là, Adorno lui répond dans un mémorandum de recherche qui fait 40 pages et dont il y a encore un truc dactylographié à Berlin mais qu'on trouve nulle part sinon, en anglais, les deux parlent allemand mais c'est en anglais pour les autres, en quoi on pourrait faire un type d'enquête empirique d'un nouveau genre qui serait la recherche sociale, qui est déjà l'intitulé de l'Institut de Francfort depuis 1923, qui se concrétise là, disons, dans le langage de la méthode sociologique mise à jour, quoi, en quelque sorte. Et donc, il explique qu'on ne doit pas s'inscrire dans des catégories qui sont données par avance par le scientifique, parce que ça serait du positivisme, justement, pour étudier des faits, mais plutôt donner un cadre d'interprétation critique à des observations qu'on va utiliser pour mettre à jour la compréhension critique plus globale et pas seulement d'un phénomène local singulier. Local, par exemple, Lazarsfeld avait étudié dans un bled, dans une petite ville. La campagne présidentielle, justement, de 1940, où Roosevelt est élu. Il dit, ah, ben, vous voyez, c'était conforme à mes résultats, donc j'avais raison. Ben non, parce qu'après, il a refait en 48, quand c'était Truman, et il s'est complètement planté dans le même village. Donc, une localité n'explique jamais une globalité. Il faut donc une interprétation critique, une théorie critique. C'est le débat qui se joue. Et Adorno et consorts vont se lancer dans ce type de nouvelles recherches sociales avec les études sur la personnalité autoritaire, qui ont une grande base empirique, 2000 personnes interrogées, mais qui reposent sur une conception critique où interviennent la psychologie de masse de Freud, dont je parlais, revue, la critique du positivisme et les développements depuis Kant d'une réception critique de la réalité qui ne serait pas obscurantiste, justement, mais qui comprend que c'est pas parce qu'on observe telle expérience circonscrite qu'on a déjà compris le monde entier, ou c'est pas parce qu'on déclare telle philosophie en système qu'on a compris tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Et donc c'est à ce moment-là que, bon, moi je résume ça comme ça, que Adorno il développe une sorte de perspective où il y a une dialectique entre l'expérience et le concept. Hein? La théorie ne résume pas toutes les expériences, et l'expérience ne peut pas produire en soi la preuve que telle vue, telle science est exacte. Hein? Il y a un va-et-vient qui crée des frictions, donc une dialectique de l'expérience et du concept. Alors déjà, expérience, on avait dit Popper s'en fout. Dialectique, c'est encore pire, c'est totalitaire, je sais pas quoi. Bon, donc vous voyez d'où viennent les bases du désaccord. Alors maintenant, voyons cette histoire de Popper. Je suis pas trop long là, ça va, vous tirez pas trop la langue.
Non, ça va.
On en vient quand même au sujet du jour là. J'espère que ça éclaire quand même, c'est pas juste des circonvolutions ou des manières de tourner autour du pot. On voit quand même les bases du désaccord qui ne sont pas nettement exprimées dans le désaccord au moment où il est médiatisé. Hein. Donc maintenant, revenons à Popper. Alors, déjà, au moment où ça se passe, là en 61, Adorno il fait des intros, etc., pour situer la situation du débat sciences humaines, pour aller vite. Il voit bien les grands courants, les grandes tendances, y compris à l'université, hein, il faut quand même nommer des profs, qui, de quelle approche, de quel courant d'idées. Et il dit, bon, bien évidemment, il reste quand même très fortement un marxisme, y compris orthodoxe, de type parti communiste, hein, pro-soviétique. De plus en plus aussi des courants hétérodoxes avec qui il discute, mais qui ne sont pas les courants principaux. En face, le libéralisme, de type anglais, hein, libéralisme politique et philosophique, qui peut aussi avoir des bases dans le droit naturel, la loi naturelle, etc., des fois, mais assez éloigné, parce qu'il est économiste, souvent, et... puis le néo-positivisme, et lui il appelle ça le néo-positivisme, qui d'ailleurs circule, entretient des circularités beaucoup plus riches que dans le débat Popper-Adorno, qui est une fin de non-recevoir, si on pense aux amitiés de Popper avec Friedrich von Hayek, le théoricien de l'économie néolibérale, ou d'une manière plus philosophique et plus modérée, avec Dahrendorf, qui intervient aussi dans ses congrès de sociologie, notamment en 68 à Francfort. Dahrendorf, qui est le grand philosophe libéral de l'époque. D'ailleurs, qui, à la fin de sa vie, après la chute du mur, a dénoncé le monstre qui est devenu le néolibéralisme, hein, qui... en fait, donne un peu rétrospectivement des arguments qui accréditent la position, disons, de gauche, ou en tout cas celle d'Adorno. Et Popper, qui a, comme on le sait, formé Georges Soros, par exemple, donc, qui a parfaitement compris le jeu du marché aussi, et qui est loin d'être un idiot. Hein. Bon, et à la même époque, c'est cette histoire de Thomas Kuhn aux États-Unis qui va se retourner et devenir l'un des meilleurs critiques sans forcément se référer à la théorie critique. Bon, après, on a le droit de lire des choses qu'on assimile à sa manière sans forcément les rabâcher. Où est-ce que j'en étais là dans mes notes ? Oui, alors maintenant, juste pour le détail, comme ça ne se joue pas vraiment dans les termes du débat, hein, moi je le relie plus à un enjeu plus global, je pars un peu du point culminant de la critique d'Adorno directement par rapport à cette construction du formalisme logique qui vient du cercle de Vienne, encore les Autrichiens à la base, et qui est développé d'une manière très sophistiquée par la suite par Popper, n'est-ce pas? C'est quand Adorno dit donc dans son essai sur la querelle du positivisme, qu'il appelle donc pas la querelle allemande du positivisme, parce que c'est en allemand. Il dit que l'objectivité scientifique affichée de Popper repose sur des catégories données. Mais quelles sont ces catégories? Donc là, vous allez retrouver un peu le débat avec Durkheim. Il y a des catégories d'analyse qui sont données. Bah, données par qui? Ça peut pas être Dieu, il n'y a pas de preuve ontologique du Dasein de Dieu avec Kant, donc d'où ça vient? Et il dit, Popper lui-même explique donc dans le débat que ça peut être la concurrence, la compétitivité, à la fois en termes théoriques ou scientifiques entre les disciplines scientifiques universitaires, par exemple. Ou d'une manière plus générale, hein, la concurrence entre propositions, individus, etc. Là, on retrouve quand même une possible compatibilité théorique avec le marché, hein, bon, que je venais d'évoquer. Ça peut être la tradition. Ce qui est déjà établi et donné par les générations précédentes, notamment la tradition de la critique. C'est pour ça que je parlais de Kant et d'autres choses qui sont revues sans cesse. Ou les institutions sociales qui se sont développées telles qu'on les connaît. Ça, c'est des termes, des catégories qui sont avancées par Popper. Et donc, qui peuvent expliquer la position des chercheurs scientifiques tels où ils se situent, ou les grandes écoles, entre guillemets, hein, puisque j'ai montré que le positivisme, c'est une grande école avec des variations, des reprises de toutes sortes. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ça peut aussi être le champ organisé de publication du style peer review, donc c'est par les pairs déjà institués, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'état rationnel de type république, hein, quand on pense aux États-Unis, bon, c'est quand même établi dans la continuité malgré tous les conflits politiques et qui garantit, notamment en pensant aux États-Unis, le free speech, c'est-à-dire la tolérance politique qui favorise la discussion libre. Pas non plus une catégorie transhistorique. Hein. Si on pense à l'Europe, ça n'a pas toujours été le cas. Bon. Donc, ça, c'est une citation hein, d'Adorno dans ce débat, dans ce texte aussi, où il cite Popper, la logique des sciences sociales. Donc là, Adorno enchaîne, il parle en lui-même, il dit. Die Fragwürdigkeit dieser Kategorien ist éclatante. Je ne sais pas comment ça a été traduit, je n'ai pas retrouvé dans le détail, parce que, en fait, On a des éditions patchwork, hein, c'est pas forcément toujours les débats d'époque qui sont retranscrits de la même façon, etc. Mais je vais vous traduire à ma sauce. Le fondement de ces catégories, font débat, donc pose question en allemand, pose question, de manière éclatante. De manière éclatante, c'est-à-dire, c'est évident que ça pose un problème, c'est évident pour lui. Il dit éclatant, il dit pas évident, parce qu'évidence, on serait dans un truc positiviste, faits qui sont à vérifier, des théories qui sont à vérifier, s'ils correspondent aux faits et des choses comme ça. Exemple, hein, il reprend les catégories telles que Popper les a énoncées lui-même. Dans le concept de concurrence, se manifeste l'entièreté du mécanisme de concurrence avec son cortège funeste qui a été mis en lumière par Marx. Donc le marché exprime aussi une forme fétichiste, comme le fétichisme de la marchandise. Donc ce sont des catégories qui sont des représentations fétichistes du développement de la société bourgeoise qui se donne à voir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les remettre en question, ces catégories qui sont produites historiquement. Mais comme Popper a déjà exclu Marx du débat, vous voyez, ça ne peut pas se discuter, puisque Marx est un totalitaire obscurantiste. Circuler, il n'y a rien à voir, n'est-ce pas? Donc ça se mord la queue à chaque endroit. La tradition sur laquelle Popper veut reposer sa catégorisation a manifestement constitué certaines entraves aux forces productives à l'intérieur des universités. C'est-à-dire la tradition, si on est juste à reciter, je sais pas quoi, Popper, par exemple. Bah, ça ne favorise justement pas le débat libre, mais les écoles, et comme il dit par exemple, les marxistes vos gueules dehors, bah, ça crée une entrave au lieu de favoriser la libre discussion, n'est-ce pas? Et donc il continue à décliner toutes les catégories d'analyse qui sont postulées comme étant des choses instituées par la raison, en quelque sorte, comme étant, au contraire, des représentations fétichistes ou problématiques, etc. Et l'argument plus global, qui unit cette approche critique de la part d'Adorno, c'est que c'est une approche qui fait le pari de l'abstraction. À chaque fois, on est dans des abstractions. Et là, on retrouve en fait tous les fondamentaux de la critique du positivisme, non seulement par Adorno, mais par toute la théorie critique dans sa diversité, qui est de dire que si on est dans l'abstraction, on n'arrive plus à voir à quel moment l'objet a soumis les sujets agissants dans l'histoire. Donc, s'il y a une objectivité postulée par catégorie, presque transhistorique, on ne peut plus l'interroger au nom des sujets agissants, des sujets qui pratiquent la critique. Et si on remonte à Kant, par exemple, bah, l'idée de Kant, elle peut s'affirmer, elle peut se déployer parce qu'il y a la Révolution française. N'est-ce pas? Et qui, contrairement à ce que croit Habermas, n'était pas un conciliabule de bourgeois savants pour définir les droits de l'homme, mais c'était la lutte des classes en France, c'est-à-dire les sans-culottes, les insurrections urbaines, les mouvements paysans qui ont provoqué la grande peur des possédants, des seigneurs, le soulèvement des esclaves noirs qu'on veut remettre en chaîne à la fin de, enfin, après l'abolition de l'esclavage, qui donne Haïti et d'autres endroits encore. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et tout ça au nom d'un principe qui est le droit naturel, n'est-ce pas, qui est à la base de l'idée de loi naturelle qui fonde la liberté. Ce n'est pas une catégorie qui s'en dispute. Et d'ailleurs, c'est au nom de cette catégorie qu'on est obligé de mettre fin au droit divin, l'idée selon laquelle il y aurait une puissance supérieure qui peut régenter tout ça, c'est-à-dire décapiter le roi. C'est quand même un vote assez politique, assez débattu. Hein, et donc, c'est en fait, c'est là que Kant gagnait le pari, c'est quand on décapite le roi. Donc, il n'y a plus de droit divin, il n'y a plus de preuve possible de l'existence de Dieu sur Terre, en philosophie. Hein, donc, on peut remonter le fil comme ça, dans tous les sens. Je finis en un mot que l'ensemble de ces échanges, hein, où à chaque fois, non seulement Adorno, mais des générations de chercheurs apprennent aussi à travers la querelle. C'est pas parce qu'elle n'est pas conclue qu'elle est inutile, je pense. Hein. Pareil avec Lazare Sfels, s'il n'avait pas apporté les méthodes sociologiques empiriques déjà déployées, Adorno aurait du mal à les assimiler aussi vite, puis à les critiquer, par exemple, n'est-ce pas, et les autres. Mais tout ça, ça culmine chez Adorno dans l'écriture, justement, tout au long des années 60, de la dialectique négative. Et c'est là, en fait, où au-delà de la querelle et disons, du résumé là, qui se retrouve dans le chapitre sur le positivisme de 69, qu'il essaye de proposer une nouvelle perspective pour dire c'est ni l'expérience empirique en tant que telle qui aurait déjà ces catégories qui sont données par les savants eux-mêmes, comme Popper, hein, qui dit ma théorie elle existe, vous n'avez pas à la contester au nom de je sais pas quelle expérience historique ou phénomène ou enquête empirique. Au lieu de se la jouer comme ça, il dit il faut essayer de comprendre enfin, d'organiser de la dialectique et comprendre la tension entre les deux, l'expérience sociale et la conceptualisation critique, qui se fait pas n'importe comment, je sais pas, n'importe qui au bistrot peut être à la fois philosophe et sociologue et tout ce qu'on veut, anthropologue et qu'est-ce que tu as dit encore, géographe, et ainsi de suite. C'est pas n'importe qui, c'est bien évidemment dans un développement collectif transgénérationnel et savant, mais à l'intérieur, il envisage avec ce type de recherche d'un nouveau genre et la conceptualisation de plus en plus nourrie et avancée de la théorie critique qui remonte à la Révolution française et la formulation de la critique, sinon même avant, qu'on peut changer d'angle de vue. Et qu'on peut aussi ébranler ces fausses certitudes affirmées avec un aplomb assez incroyable à la Popper.
Parfait, merci beaucoup Alex.